le matin. Marceau le matin.
9h29 minutes. Ça fait maintenant une heure qu'on a réussi à parler avec notre Pascal CV qui était en Afrique, en direct du sommet au Kilimanjaro. Elle a réussi, elle et toute son équipe, notre belle collègue Joannie aussi le week-end, qui était là, qui a eu peut-être un peu plus de difficultés parce que pour tous ceux qui ont croisé Joannie dans leur vie, c'est une athlète puis il n'y a pas grand gras sur cette athlète-là.
Oh, que non!
Donc, avec les températures qui étaient dans les moins pas pires, là, elle a eu extrêmement froid, mais tout le monde a réussi à monter en haut, tout le monde est en santé. Puis là, ben, dans les prochaines minutes, les prochaines heures, ils vont être en train d'amorcer leur descente du mont Kilimanjaro. Est-ce que tu as mis l'extrait sur le site web?
Max Larouche l'a mis, c'est déjà partagé sur nos médias sociaux.
Donc voilà, elle est là, elle va bien. Je salue ses parents qui devaient être inquiets comme pas possible. Faut pas que l'adrénaline descende, hein, parce que là, elle est rendue en haut.
Il reste encore un jour et demi de dur labeur.
Exact, mais la vigilance doit rester là, parce que c'est quand même à pic là, à certains endroits. Donc... elle va réussir à descendre en toute sécurité,
ben oui.
J'en suis persuadé, mais on a très bien hâte de la voir. Puis félicitations à Pascal et toute son équipe, puis la Fondation Cerveau est bénéficiaire là, de tout l'argent qu'ils ont amassé. C'est juste que ça a coûté plus cher à Marc-Antoine Reed, parce qu'il a dit « Pour tous ceux qui donnent de l'argent, moi, je vais accoter le même montant. » Fait que là, ça l'a mis un peu dans le trou, mais je regarde ses habits, là, je me dis qu'il ne sera pas dans la misère.
Oh non, il ne sera pas dans la misère du tout, Marc-Antoine Reed. Il a tellement le cœur sur la main.
Parlant d'un autre qui n'est jamais dans la misère, notre chroniqueur est en national David Chabot, qui se promène à travers le monde pour ramener des idées. Il revenait de Munich, là, Bertrand. Salut, David.
Ça va?
Ben oui, très content que tu sois là. Qu'est-ce que tu étais faire en Allemagne?
Écoute, on a fait un voyage d'études pour aller voir les meilleures idées, les meilleurs projets
là-bas. Un voyage d'études pour aller voir l'Oktoberfest.
Moi, je pense que ça faisait partie et je salue son patron qui se dit on va aller faire un voyage d'affaires, mais qui trouve le moyen de récompenser ses bons employés.
Exact. Non,
donc, tout simplement, message à nos patrons, les frères Leclerc.
Ah, c'est un message. Hey, c'est pas fou, ça.
Mais on s'est enfargé les pieds, c'était pas ça.
L'idée d'aller en Allemagne, parce que vous autres, vous êtes dans le développement immobilier, là, l'idée d'aller en Allemagne, c'est de voir comment eux fonctionnent, puis pourquoi eux précisément vous intéressaient?
Bien, on aime voir les pays qui ont des niveaux similaires à nous en termes de richesse puis de structure sociale, tu sais. Puis sincèrement, pour ceux qui sont déjà en Allemagne, là, t'arrives là, puis oui, la langue est différente, mais on se sent déjà chez nous. Fait que là, on se dit, bien, c'est un très bon comparable, puis en Europe, ils ont des techniques vraiment différentes de construction puis de développement immobilier. Donc, on voulait aller s'inspirer de ça, puis aussi voir... d'un point de vue urbanistique, là, comment ça se développe la ville de Munich versus nous, ici à Québec. Puis il y a plein de choses qu'on a ramené de ça.
Ça se ressemble-tu, comme tu pensais?
Ben oui, c'est sûr que c'est une ville historique, là, on se comprend. Il y a des bâtiments qui sont pas mal plus vieux que toi puis moi, sauf que au-delà de ça, moi, il y a deux choses qui m'ont marqué, c'est ce que je voulais qu'on se parle. Là. Le logement social, le modèle qu'ils ont développé là-bas, qui a vraiment un nom, un brand, là, qui s'appelle le München Model, qui est en allemand pour dire le modèle Munich. Puis aussi le transport en commun dans cette ville-là qui est vraiment à des années-lumière du nôtre.
Oui, il fonctionne comment, ça?
Pour le transport en commun, tu parles? Ben, c'est une ville de 1,6 million d'habitants. Fait que c'est un petit peu plus gros que nous autres dans la grande région. Là. Nous autres, on approche du million là, dans tout le monde. Fait qu'il faut quand même relativiser les choses. Mais ici, on a le débat du tramway depuis 25 ans. Là. Puis là-bas, il y a 8 lignes de métro puis 13 lignes de tramway.
Oui, c'est ça qu'au niveau de transport en commun, ils sont hyper efficaces comme la majorité des Européens, j'imagine.
C'est ça. Puis là, tu sais, je comprends que c'est différent parce que le climat n'est pas pareil, puis bon, etc. Mais tu sais, c'est tellement facile d'utiliser le transport en commun là-bas que tu te demandes pourquoi on n'a pas ça à Québec déjà, tu sais. Puis c'est zéro partisan par rapport à la campagne électorale. Je suis vraiment pas là-dedans. Je fais juste une réflexion générale. Tu sais, aller en ville en ce moment, c'est l'enfer. Il faut que tu prennes 8 autobus. Là-bas, tu embarques sur le tramway, bang, tu fly. Le métro, tu sais, on se parlait de l'Oktoberfest. La journée où je suis allé à l'Oktoberfest, il y avait 1,2 million de personnes qui avaient circulé sur le site. Okay? C'est du monde en sacrifice. Là. Puis c'est grand à peu près comme Exposité à Québec. Puis c'est à peu près intégré dans la ville comme Exposité. Tu sais, pas exactement au centre-ville, mais pas loin. Puis là, t'arrives dans la station de métro pour sortir. Puis là, c'est plein. Il y a genre 1500 personnes. Puis là, il y a un métro qui passe. Boum, c'est vidé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne sur la plateforme. Tu sais, c'est tellement efficace que tu te dis pourquoi pas être capable de faire ça ici.
Puis au niveau de la densification à Munich, ça peut ressembler à quoi? Est-ce que ça ressemble un peu à ici ou c'est pas mal plus en hauteur?
C'est surprenant parce que je m'attendais à beaucoup plus de bâtiments en hauteur.
Ouais.
Je te dirais que la moyenne, c'est à peu près un 8-10 étages.
OK, donc, quand même.
Tu sais, oui, il y a des bâtiments, surtout des tours à bureaux qui sont plus hautes que ça. Là. On est allé d'ailleurs voir le siège social de BMW, puis je te dirais que c'est quand même impressionnant. Tu sais, il y avait l'usine juste à côté, puis là, le siège social, puis l'espèce de méga showroom. Là. Mais tout ça pour dire que... Je te dirais que dans le résidentiel, quand tu passes 12-15 étages, t'es rendu dans la bonne densité. Mais ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils vont vraiment jazzer les volumes, dans le sens que t'en as un qui va avoir 15 étages, puis à côté, t'as un 10, puis t'as un 8. Puis tout ça ensemble, t'as une espèce de parc central, puis ça marche. Là, le sentiment de densité, tu le sens pas vraiment. Alors que des fois, nous autres, on a tendance à dire on va prendre un îlot, puis c'est là qu'il va avoir la densité. Puis ça finit que t'as des bâtiments vraiment de pleine hauteur, parce que tu veux rentabiliser ton pied carré, mais t'as pas d'espace public, t'as pas de parc, fait que c'est fini que ça vit pas, tu sais.
Donc, exemple, on veut revitaliser Charest ici, fait que ça serait... Ils le feraient comme ça, eux. Ils le feraient... J'ai juste récupéré.
Trop d'émotion.
Ouais, c'est ça. Ils le feraient en faisant du 15, du 8, du 10, avec des espaces de milieu de vie à travers ça, qui sont justement des parcs.
Ça va être un passage obligé. Si on veut des lignes de métro un jour à Québec, dans quelques années, quelques décennies, ça va être un passage obligé. On va être obligé de monter en hauteur. Puis je sais que ça va déplaire à bien du monde quand M. Dallaire voulait faire sa grosse bâtisse sur Boulevard Laurier, c'était le phare.
Ouais,
il y a des gens qui se plaignaient parce qu'ils disaient « on verra plus notre soleil ». Mais à un moment donné, il faut passer par là, par des édifices en hauteur. Toi, tu me dis 10-12. C'est ce qu'on peut voir actuellement à côté de la bibliothèque Gabriel-Leroy. Tu as un autre édifice aussi qui est situé au-dessus du Ashton, de l'ancien Ashton au centre-ville de Québec qui s'appelle le Watson, qui est à peu près à 12-13 étages. Mm-hmm. Puis, tu sais, ils ont réussi à bâtir. Puis, il y a bien du monde là-dedans. Là, puis, il y a du stationnement souterrain bien en masse.
Ouais.
Celui-là qui est efficace, là, moi, je le vois aller tout le temps. C'est celui-là qui est à côté de la bibliothèque Gabriel-Leroy. Là. C'est de toute beauté. Mais vivre là-dedans, t'as l'impression d'être dans un aquarium. Là.
Ben, à cause que c'est vitré tout le tour.
Ouais, hein.
Ben, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas de densité non plus en bordure de ça.
Exact. T'sais.
Puis, ce qui est intéressant aussi à Munich, ce qu'ils ont fait, c'est qu'évidemment, eux, ils ont eu la Deuxième Guerre mondiale. Hein, fait qu'on n'a pas vécu ça. Sauf qu'il y a des grands espaces industriels ou militaires qui sont devenus désaffectés par la suite parce que, même assez récemment, la fin de la guerre froide, ça a changé la dynamique. Donc là, ça, c'est le gouvernement puis les villes qui possédaient ces espaces-là. Puis là, ben, ils se sont dit, ils ont fait un peu comme Valérie Plante a essayé de faire avec le Blue Bonnet à Montréal, c'est-à-dire un appel de proposition publique, sauf que les conditions sont beaucoup moins sévères que ce que Mme Plante a mis. Puis ça, c'est souvent le problème, c'est que quand les gouvernements, là, je parle de tous les paliers, ont un actif en main, ils veulent tellement capitaliser dessus pour dire c'est là qu'on règle tous les problèmes de la ville que ça finit que ça étouffe les projets, tu sais. Alors que là-bas, ben, c'est un espèce de deal là, où, dans le fond, la ville, souvent de Munich, qui avait le terrain. Là, puis j'ai un terrain en tête que c'était vraiment une gare de triage là, dans le temps. Là, okay? Puis ils ont dit, ben tu vas nous mettre un peu de logement social, un peu de logement abordable, puis en même temps, je te fais un bon prix pour que ça se puisse dans ton modèle d'affaires, puis je t'exige d'avoir une vie commerciale au rez-de-chaussée intéressante. Fait que là, oui, c'est vrai que c'est un peu contraignant parce que c'est pas aussi facile que de dire j'achète un champ à Lac-Saint-Charles puis que je fais 8000 unités à cet endroit-là. Sauf que tu as accès à un terrain qui est primé parce que tu es au centre de la ville ou pas loin. Donc le deal, c'est je te donne un terrain de qualité ou en tout cas je te le vends, mais pas cher. Mais en échange, tu vas me donner de l'utilité sociale pour la perpétuité. T'sais.
Donc il n'y a pas nécessairement de subvention du gouvernement, mais plus un prêt de terrain ou une entente de terrain vraiment au bénéfice de l'entrepreneur.
Oui, c'est souvent même des amphithéoses. Donc c'est un bail à très long terme. Finalement, là, donc des baux à 60, 70, 80 ans. Ça, c'est moins intéressant pour un propriétaire immobilier, bien évidemment. Sauf que quand tu le fais sur 75 ans, tu as le temps de faire trois cycles de vie. Tu fais 25 ans, tu rénoves, puis bon. Donc là, ça donne quand même un incitatif. Puis ce qui est bien, puis on n'est pas pour les taxes, là, c'est, dans la vie en général, on est déjà assez taxé. Sauf que ce qu'ils disent, c'est quand tu as ce terrain-là, ben, je price in, là, en bon français. Donc j'inclus dans le prix de vente une contribution pour développer du transport en commun. Puis là, je fais des nouvelles tracks de tramway, par exemple, qui passent au cœur de ton projet.
C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'on fait pour la famille? Puis là, je prends l'exemple là, ici à Québec. Là. La fameuse famille qui sont dans un loyer de 1 400 $. Ils gagnent 18 à 22 piastres de l'heure. Donc, leur loyer coûte trop cher puis ils vont dans les banques alimentaires. Comment on travaille ça en Allemagne?
Ouais,
c'est... 18 à 22 là-bas, c'est-tu le même 18 à 22 ici?
Ben, c'est surprenant le coût de l'immobilier là-bas, OK, parce que, mettons, ça doit être ça à peu près le salaire moyen, je te dirais, le 25 euros de l'heure. Évidemment, il y a le taux de change qui est en leur faveur. Mais j'ai regardé juste avant de rentrer en onde, puis le coût d'acquisition, là, si tu veux acheter un logement à Munich, c'est entre 1 200 $ et 2 000 $ canadiens du pied carré. Donc là, si on se dit un 4,5 de 1 000 pieds carrés, ce qui est comme un grand standard, ça va coûter 1,2 puis 2 millions pour acheter ça.
Aïe, aïe, aïe.
Puis tu sais, on se comprend, Munich, c'est une ville qui est en santé, mais c'est prohibitif comme coût, tu sais. Mm-hmm. Puis ça, je fais juste une parenthèse. En Europe, ils ont beaucoup ce problème-là parce qu'ils ont fait des systèmes d'hypothèques à très long terme. Donc, nous autres, on était capés à 25 ans. Là, maintenant, il y a comme un assouplissement pour le 30 ans. Puis ça, c'est le gouvernement de Stephen Harper qui avait donné cette règle-là. Mais par là-bas, en Europe, là, souvent, même en France, là, tu peux hypothéquer sur 100 ans. Donc là, tu te dis « Parfait, ça baisse mes paiements. » C'est vraiment le fun, sauf que ça, tu viens jamais à bout de payer. Fait que tu n'es jamais vraiment propriétaire de ton logement. Tu es tout le temps en train de payer de l'intérêt. Puis finalement, tu passes ton logement de génération en génération. Ça devient un legs historique mm-hmm. que tu n'achètes rien, finalement. Donc, tout ça pour dire que le coût du logement est tellement élevé que la classe travailleur, là, ils ont eu un problème vraiment important de chauffeurs d'autobus, parce que là, le transport en commun vient évidemment avec des chauffeurs d'autobus puis de tout ça, mais autobus spécifiquement. Donc là, eux, dans le fond, ils visent le loyer intermédiaire. Okay? Puis ça, c'est une nouvelle notion qui se développe au Québec en ce moment, le loyer intermédiaire. Là. La Société d'habitation du Québec commence à parler de ça. Donc, c'est vraiment de dire que c'est pas du logement social. C'est pas. Là, je lance des chiffres, là, on pourrait débattre, là, mais c'est pas, mettons, 800 $ par mois pour un 4,5. Mais c'est pas le plein prix non plus dans le neuf à, mettons, 2000 $ par mois. C'est entre les deux. Là, fait que, mettons, dans le cas de Munich, tu sais, il visait à peu près 1200-1500 euros pour un 4,5 de 1000 pieds carrés. Donc, par rapport à l'acquisition, évidemment, c'est des années-lumière moins chères. Mais en même temps, tu contribues pareil, tu sais. Donc là, c'est un programme qui est assez spécifique. Mais pour y avoir accès, il faut que tu travailles. Puis ça, c'est une nuance qu'ici, ça serait on mettrait les rues en feu.
Ouais, mais c'est tellement intéressant pareil.
Ouais, ouais mais quand on a entendu ça, là, les huit dans notre groupe, on a fait comme « wow ». Parce qu'imagine qu'on annonce ça ici à Québec, ouais, là, on fait un programme, c'est de la subvention.
Là, on a les groupes de pression qui sortent.
Mais tu dois te réveiller.
Mais ça revient, je parlais avec un entrepreneur, lui, fait des condos de luxe, là, puis il me parlait justement des mixités, tu sais, mixité des classes. Puis il disait, tu sais, tu vas entendre à la radio ou à la télé que les riches, ils veulent vivre avec les pauvres, là, aucun problème, jamais. Mais la réalité que lui vit, là, c'est que quand il vend ses condos de luxe, là, les gens ne veulent pas avoir des HLM à côté. Ils veulent pas avoir des gens qui peuvent, je sais pas moi, représenter une problématique pour eux autres dans un avenir proche ou très éloigné. Ils veulent la crif de paix.
Ouais, mais ça là, c'est basé sur le fait que nous autres, notre modèle ici, là, c'est qu'on faisait des logements sociaux. Là. Ça, c'est le parc. Puis là, je m'excuse, là, c'est vraiment gros ce que je vais dire là, mais ça, c'est le parc des pauvres. Okay? Puis là, c'est là que ça va. Là,
on t'as raison, c'était le même en Basseville, c'était le même à Charlebourg.
On l'a fait, en tout cas, je ne veux pas nommer les projets, mais il y en a plusieurs à Québec de ça. Puis là, ça crée une espèce de stigma parce qu'on se dit, ben là, ce parc de pauvres-là, on veut pas ça chez nous. Mais dans la vraie vie, là, puis en Europe, ils font beaucoup ça. Faut que tu saupoudres, dans le fond, des unités d'un peu tout à travers le bâtiment. Puis tu le sauras jamais que le 108, c'est quelqu'un qui a accès à un problème de logement social. Puis que le 117, ben c'est toi qui a deux pieds sur le pouf, là, tu sais. Fait que cette espèce de mixé.
Mais encore là, tu sais, il me donnait un exemple, puis je trouve pas ça fou. Tu sais, Yann, quelqu'un qui a trois stationnements dans un édifice, là. Il y a trois chars de 80 000, les gars vont faire attention. Ils vont faire attention quand ils vont ouvrir les portes. Pour ne pas ouvrir la porte directement sur le char qui est à côté, qui vaut 80, OK? Je prends le 80 pour que tout le monde comprenne. Puis des fois, il y en a qui ont des chars finis, puis qu'eux autres, ils vont se parquer à côté d'un char qui en vaut 80, puis ils se crissent éperdument du char qui est à côté. Ils vont ouvrir la porte, ils vont pas quel char.
Mais ça, va être...
ça, les riches, là, ils veulent pas rien savoir de ça.
Mais c'est vrai aussi si tu te parques au galerie de la capitale. Tu sais.
Ouais, exactement. C'est, ça. C'est la raison pour laquelle ils se parquent plus loin.
Ouais, c'est ça.
C'est quand même... Je vais me permettre de dire qu'il y a quand même eu beaucoup de préjugés dans ce qu'on vient dire qu'un pauvre se calisse du char du riche.
Mais c'est ce qu'il m'a dit. Puis lui, il travaille dans le condominium de luxe, là. Puis il dit, tu sais, ils vont toujours dire à la radio, à la télé, qu'il n'y a pas de problème, mais dans la vraie vie, le gars qui a un Mercedes ne se parquera pas à côté d'un char magané parce qu'il sait très bien que quand le gars qui a un char magané va ouvrir la porte, ben ça se peut qu'il ne fasse pas attention.
Ben c'est là le préjugé. Je sais pas pourquoi une personne qui n'est pas en moyen prendrait moins soin de la Mercedes qu'une personne qui est en moyen. Ça peut arriver pour n'importe qui, selon moi.
Arriver. Mais l'inverse est rare. T'sais, quand tu as un char de 300 000, tu pèteras pas le char qui est à côté.
Ouais, je comprends. Mais tu sais, la mixité dans tout ce bâtiment-là, c'est bon pour tout le monde pareil parce que tu as des gens qui ont, je te dirais, accès à du logement de qualité parce que souvent, l'erreur qu'on fait, c'est du logement social à pas cher parce qu'il faut pas que ça coûte cher parce qu'on n'a pas d'argent pour payer ça. Là, tu fais un ensemble immobilier, mettons, de qualité pour quelqu'un qui paye le plein prix. Ces personnes-là ont accès à cette qualité-là. Puis la mixité sociale, c'est bon aussi parce que tu peux te faire des amis dans toutes les classes sociales.
Parfaitement d'accord. On est issus de ça, nous autres. On vient de Saint-Roch. Fait que nécessairement, on avait des gens qui étaient un peu comme nous autres, mais quand tu avais des familles qui étaient un peu plus aisées, on était bien contents de les côtoyer et d'aller souper chez eux autres. Là. Mm. Mais sur papier, ça peut paraître bien beau, là, mais dans la réalité, tu sais, quand tu as un immeuble à condo de luxe, puis tu as les beaux vélos qui sont en bas, versus une clientèle qui était peut-être un peu moins riche, ça se peut que tes vélos disparaissent.
Là, hey, là je suis complètement désaccord.
Hey, c'est parce que ça arrive.
Mais là,
ça arrive.
Hey, les préjugés. Ben non. Les gens moins aisés prennent pas soin des affaires. Les gens moins aisés volent.
Mais là, arrête-moi ça. Tu mets ça au sens large.
Ben non, je mets ça au sens large. C'est exactement ce que tu viens de dire.
Au centre-ville de Québec, là, la problématique qu'ils ont là, avec les condos de luxe, là, c'est que nécessairement, il y a des résidents qui se font voler. Ils se font péter des fenêtres.
Non, c'est parce que, tu sais, ça n'a aucun sens. C'est comme si tous les gens...
Mais tu dis-tu que ça arrive?
...sont pas en moyen...
Mais c'est pas ça que j'ai dit. Ben, tu dis ça juste pour faire mal paraître puis gagner ton point.
Ben non, t'es rempli de préjugés.
Ben non, mais je le vis à Saint-Roch. Arrête.
Ben non, arrête, voyons donc. Tu t'en vas dire, les pauvres prennent pas soin de ci.
J'ai pas dit ça. J'ai dit que ça arrive dans certaines circonstances.
Ben oui, puis ça va arriver qu'il va y avoir des gens plus aisés qui
font attention. Mais si tu mets ça tout le temps gros comme ça, on pourra jamais jaser. Là, parce que c'est le genre de commentaire que j'ai d'un entrepreneur qui est dans le condo de luxe.
Ben oui.
Tu sais, si tu veux l'appeler mode donner son numéro de téléphone, tu t'ostineras avec lui.
Si tu m'accuses de mettre toujours ce gros, fais attention à comment tu amènes tes points, c'est ça que je vais te dire.
Mais non, c'est des propos que
je
rapporte.
Mais non, c'est ça, c'est moi qui est dans l'erreur encore.
J'ai pas dit que tu étais dans l'erreur.
Ben oui, c'est toujours ça.
C'est que ça arrive dans certains cas. J'ai pas dit que c'était à 100% des cas. Mais dans le quartier Saint-Roch, actuellement, ce qu'on a comme problématique, là, c'est des immeubles à condos avec des voitures de luxe. Puis là, ben, y a des gens qui vont se promener dans le sous-sol puis qui pètent des fenêtres. Ouais.
On aura un problème là, à travailler ensemble, c'est avec les préjugés de même. Là.
Ben, c'est pas les préjugés non, que j'étale, un problème. C'est des choses que j'entends. Donc, Munich.
Ça va. Ben, je peux vous parler d'un autre modèle qui est peut-être un peu moins controversé. On a ça au Québec, là, les coops d'habitation. Okay? Donc là, pour eux, ben, c'est inclus dans le modèle Munich. Finalement, c'est un autre modèle d'affaires où c'est un regroupement de citoyens qui disent « on va mettre de l'argent dans le pot puis on va se bâtir une coopérative puis tout le monde est un peu propriétaire de ça, t'as une part sociale ». Ça, c'est un autre modèle parce que quand tu es là-dedans, tu participes aux tâches collectives. Okay? Puis ça, c'est vrai ici déjà au Québec, ça existe déjà. Là. Donc là, tu sais, le verdissement, finalement, il n'y a pas un contrat qui est donné. C'est que les gens entretiennent la pelouse puis il y a plein de plantations sur les balcons extérieurs puis tout ça. Il y a des espaces communs puis etc. Sauf que là, ça vient que le fait que le samedi matin, ça se peut que Gisèle, elle cogne à la porte puis elle dit « Hey, salut, man, le ménage de la salle commune, tu l'as pas fait à mon goût. Puis cet après-midi, on a un groupe puis il va falloir que tu l'organises dans le sens du monde. Fait que là, il faut que tu mettes tes culottes puis tu ailles faire ton ménage deux fois. » Fait que dans ce modèle-là, mais il y a beaucoup d'intérêt pour ça parce que quelqu'un qui a une vision collectiviste, là, puis c'est peut-être pas nécessairement un modèle de vie qu'on recherche personnellement, mais il y a des gens qui trippent là-dessus, là, de vivre dans le monde, si on veut, là. Ben, c'est un super modèle d'affaires parce que ça réduit le coût du logement pour tout le monde. Puis le coût de construction de la coop aussi est souvent très fortement subventionné. Mm-hmm. Donc, quand tu as accès à cette coopérative-là, tu restes là quasiment toute ta vie parce que tu n'as aucun intérêt à bouger là. Ce qui amène un questionnement pareil parce que dans la mobilité sociale, tu peux rentrer dans la coopérative que je te parle en gagnant, on va dire, 40 000 euros par année, ce qui est dans la classe moyenne basse, mettons, puis avoir une promotion tout ça, puis rentrer à 100 000 euros par année, puis tu restes là pareil. Donc là, il y a comme ce problème-là, parce que là, ils ont l'odieux sacré du monde à la porte. Là.
Ouais.
Donc là, tu sais, il n'y a pas de modèle parfait, mais ça, c'est intéressant quand même. Là.
OK. Fait que vous avez amené une multitude d'idées pour Québec, puis là, y a-tu des choses, y a-tu des plans qui vous ont fait changer d'idées?
Ben oui.
Ah oui?
Parce que l'architecture est assez audacieuse, mais pas en cow-boy, là. Mais, tu sais, mettons des tours en élévation, ce que là, tu vois vraiment comme de la rotation sur tes paliers. Là, il y a des portes. En tout cas, là, c'est très technique, comment je le dis. Là, mais
ouais.
Tu as des espèces de porte-à-faux. Tu as des balcons qui dépassent, mais là, c'est l'étage au complet qui est désaxé puis qui dépasse là-dessous. Puis, en tout cas, il y a plein de choses, plein d'idées qu'on a ramenées là-dedans. Comment gérer les stationnements communs par rapport à des espaces commerciaux, des espaces résidentiels. Écoute, il y a plein de choses là-dedans. Là.
C'est intéressant. Technique. David Jabot, on se reparle la semaine prochaine, mon ami.
Merci.
C'est toujours un plaisir. Puis salutations à toute ta gang. Je trouve que ton boss, il vous fait faire des beaux voyages, surtout pour l'Octoberfest.
Ah, vraiment.
9h48, on fait une courte pause. Si vous avez des choses à nous dire par texto, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021.
Marceau,